Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Rabbi Shai Asayag. Traité Souka, page 24, DAF Kavdalet.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Souka Kavdalet. Abbé nous a dit que Rabbi Meir était Rochesh Lemita, c'est-à-dire qu'il prenait en considération les risques que peut-être une personne allait mourir. Demande la Gemara, si c'est ainsi, comment se fait-il qu'il permet de boire du vin sans prendre en considération les risques que peut-être le tonneau va exploser? Je vous explique la Gemara, que Rabbi Meir pense que dans ce cas-là, il peut prendre ses précautions et s'assurer que le tonneau ne va pas expliquer, par contre la mort, on ne peut pas savoir comment ça va se passer. Demande la Gemara, une contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, on voit qu'on prend en considération le risque de que le tonneau s'abîme, alors qu'au sujet de la souka, il ne prend pas en considération le risque que peut-être l'animal va mourir. La Gemara nous explique que la raison de Rabbi Yehuda, elle n'est pas parce qu'il prend en considération les risques de mort, mais tout simplement parce qu'il pense qu'on ne peut pas, en termes de halakha, s'appuyer sur ce qu'on va prélever plus tard pour dire que ça marchait rétroactivement, ce qu'on appelle, il ne pense pas qu'on peut utiliser le système de Brira. Demande la Gemara. Mais c'est marqué explicitement que la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il pense que peut-être le tonneau va exploser. Puisqu'il a dit à Rabbi Yehuda de quoi? Et Rabbi Yehuda a dit à Rabbi Meir quoi? Tu ne penses pas que le tonneau va exploser? La Gemara explique. Rabbi Yehuda, il a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec toi fondamentalement. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas de système de Brira. Mais même si tu penses qu'il y a un système de Brira, il y a quand même un risque que le tonneau va exploser. Et toi, Rabbi Meir, tu recherches les mitas. Et Rabbi Meir lui a répondu, non, moi, je ne prends pas en considération ce risque puisqu'on peut faire attention. Demande la Gemara, comment est-ce que tu peux donner cette explication dans la Mahloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda, à savoir est-ce qu'on les recherche les mitas ou pas. Et pourtant, il est marqué au sujet de Yom Kippour qu'on allait préparer une autre femme au Kohen Gadol de peur que sa femme meure et il a besoin d'une autre femme. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Rabbi Yehuda. Donc on voit qu'on prend en considération les risques de mort. Répond la Gemara. C'est simplement une mahala, c'est simplement une chumra qu'on a fait par rapport à Yom Kippour. Demande la Gemara, que ce soit l'explication de Abaye ou que ce soit l'explication, l'autre explication qu'on a vue de Rabbi Zera, à savoir que ce soit le risque de mort ou le risque que l'animal s'enfuit. Ça veut dire qu'au fin fond, l'animal peut être considéré comme une cloison. Midera banane, on a pris en considération les risques à venir. On demande à la Gemara si c'est ainsi. Si c'est oui, défini comme le Mefritsa, pourquoi l'animal qui se trouve au-dessus d'une tombe, qui est défini comme le couvercle de la tombe, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de Touma? Et pourtant, on a une Mishnah où c'est marqué clairement que d'après Rabbi Yehuda, il y a une Touma. Et d'après Rabbi Meir, il n'y a pas. Mais d'après ce que tu as expliqué de Rabbi Meir, ça devrait être défini comme une cloison. Et c'est seulement Midarabanan que ça ne l'est pas. Et là, nous dit l'Agma, forcément, l'explication de pourquoi est-ce que d'après Rabbi Meir, un animal n'est pas considéré comme une cloison, puisque d'après Rabbi Meir, c'est une Mechitsa qui est basée, qui a toute sa présence que grâce à du vent, que grâce à de l'air. C'est pour ça que ça n'est pas une Mechitsa. Deuxième explication, puisqu'elle n'a pas été faite, Bidé Adam, c'est une Mechitsa naturelle. Ça n'est pas défini comme une Mechitsa. Quelle différence entre les deux explications de Rabbi Meir? Si j'ai créé une Mechitsa, un homme a créé une Mechitsa, mais elle est basée sur de l'air, est-ce que ça serait caché ou pas? Si je dis que le problème, c'est parce qu'un homme ne l'a pas fait, bah dans ce cas-là, un homme l'a fait. Mais si je dis qu'elle s'appuie sur de l'air, puisqu'elle s'appuie sur de l'air, de mettre la Mechitsa ne serait pas bonne. On ramène la fin de la Braïta où il est marqué qu'on ne peut pas écrire d'acte de divorce sur un animal. Pour quelle raison Rabbi Osiagli pense qu'on ne peut pas le faire? Parce qu'il est marqué dans la Torah qu'il doit écrire un Sefer. Un Sefer, c'est un livre. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose de. C'est un parchemin. D'où est-ce que je sais que je peux écrire sur n'importe quoi? Parce qu'il y a marqué Vekatav là. Il n'y a pas de limite. Ah, alors pourquoi il y a marqué Sefer? Pour te dire que ça doit ressembler au Sefer, c'est-à-dire ni quelque chose de vivant, ni quelque chose qui est consommable. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas écrire sur un animal. La banane qui permet d'écrire sur un animal, ils te disent, s'il y avait marqué bas Sefer, tu ne peux écrire que dans un Sefer, tu as raison. Mais puisqu'il y a marqué Sefer, l'intention de la Torah, c'est de dire que quand tu vas écrire, il faut que tu racontes le divorce. La Gemara demande si c'est ainsi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se dire Vekatav? D'après Rabbi Yossi Aglili, on avait besoin d'élargir de Sefer à plus. Mais d'après Rabbanan, on le Sefer, ça ne veut rien dire. Donc on n'a pas besoin d'élargir Vekatav. La Gemara dit si, on avait besoin de dire Vekatav. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire qu'un divorce peut se faire comme un mariage, puisqu'il est marqué Vekatav, Veyatza, Veyaita le Yishacher. Elle va divorcer, elle va se marier. De la même manière qu'un mariage se fait avec de l'argent, par de l'argent. De la même manière, on aurait pu dire qu'un divorce se fait par de l'argent. C'est pour ça qu'on te dit Vekatav, qu'il faut le faire seulement par un acte écrit de divorce. Rabbi Yossi Aglili doit ce qui c'est ça, parce qu'il y a marqué Sefer Kritout. Le Katav là, Sefer Kritout. Donc on sait qu'il faut que ce soit Sefer. La Kritout, la séparation ne peut se faire que par un Sefer. L'Agman nous dit qu'est-ce que les Rabbanan vont faire avec ce Sefer Kritout pour nous enseigner autre chose. Quelqu'un qui divorce ne peut pas mettre une condition sur un terme, sur un temps indéterminé. On est obligé de mettre un temps déterminé. Pourquoi? Parce qu'il faut une séparation. Et si la femme est tout le temps conditionnée, elle a tout le temps, toute sa vie une condition par son divorce, elle n'est pas séparée. Donc c'est ça qu'on apprend de Sefer Kritout. D'où est-ce que Rabbi Yossi Aglili apprend ça? Parce qu'on aurait pu écrire Sefer Karet, pourquoi est-ce qu'on a marqué Sefer Kritout? Donc je comprends qu'il faut une séparation sans limitation de temps. La Gemara nous dit Rabbanan, d'où est-ce qu'il apprenne? Pourquoi est-ce que Rabbanan n'apprenne pas du fait qu'il y a marqué Kritout au lieu de Karet? Rabbanan, ils n'ont pas cette façon d'apprendre. La Mishnah nous dit que celui qui fait une souka entre les arbres, et les arbres sont définis comme les murs de la souka yakshirim. Rabbi Yaakov bar Yaakov nous dit toute mechitza, toute cloison qui va bouger au gré du vent n'est pas définie comme une mechitza. Demande la Gemara, pourtant il est marqué que si on utilise les murs, les arbres pour, en tant que murs, c'est kasher. La Gemara nous dit, on parle d'arbres, de troncs qui sont épais et ça bouge pas. Oui, mais des fois on utilise le branchage et non pas les troncs et donc ça bouge et donc ça devrait être pas soul. La Gemara nous dit, non, on parle d'un cas où Bémet il a renforcé le branchage et c'est pour ça que ça bouge pas. Ah, mais si c'est comme ça, quel est le chidouche? On aurait pu croire qu'il faut interdire de faire une souka de cette manière de peur qu'ils viennent à utiliser l'arbre, que c'est quand même permis. La Gemara nous ramène une braïta où il est marqué que si jamais autour d'un puits, on a besoin des quatre coins du puits, on a besoin de mettre des passim, des coins pour définir cet endroit et pour pouvoir permettre de puiser, si jamais à cette place-là il y avait un mur ou un arbre ou une sorte de une cloison qui était faite à base de joncs, c'est défini comme une bonne cloison, c'est caché. Si c'est un arbre, arrête l'arbre, il bouge, donc c'est le refaire, je mérite ça. Mais pour la Gemara, on parle d'un cas où il a mis Utsav et Dafna, il a mis les feuilles de palmier. Dans la Gemara, il est marqué qu'un arbre qui a ses branches qui touchent le sol ou qui sont au-dessus du sol, s'il y a moins de 3 tfachim entre les branches et le sol, il a le droit de le porter sous l'arbre. Pourquoi est-ce qu'il aura le porté? Arrête les branches, elles bougent. Et donc, ce n'est pas une bonne méchitza. Donc, on nous dit, non, on parle d'un cas où il a été méchazek, il a mis des feuilles de palmier. Si c'est ainsi, on devrait avoir le droit de le porter dans n'importe quelle surface. Et pourtant, on sait que c'est limité à Bet et à Taïm. Pour la Gemara, oui, mais là-bas, c'est vrai que c'est toi qui as créé cette méchitza. Mais puisque c'est une maison qui n'est pas utilisée pour l'intérieur de la maison, mais pour l'extérieur de la maison, c'est pour ça que c'est limité à Bet et à Taïm. Donc, la Gemara, une dernière question. Quelqu'un qui, à la veille de Shabbat, s'est trouvé sur un monticule de terre de 10 fachim de hauteur et de 4 fachim jusqu'à Betsaatayim. Ou alors un trou qui faisait de 4 fachim, pardon, 4 amot, sur 4 amot, et jusqu'à Betsaatayim. Ou alors il se trouve dans un champ où on a récolté au milieu et tout autour il y a encore des ébits de blé de 4 amot jusqu'à Betsaatayim. Il a le droit de porter à l'extérieur de cet endroit 2000 amot de chaque côté. On considère tout l'endroit comme un amot puisqu'il est considéré comme ayant des méritats tout autour. Pourtant, les épis de blé qui sont tout autour peuvent bouger, vont bouger au gré du vent et donc ce n'est pas défini comme une méritza. Pour la Gemara, là-bas aussi, on parle d'un cas où il a renforcé ses épis, c'est pour ça que ça ne va pas bouger et c'est pour ça que c'est défini comme une méritza. On va résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. On a expliqué que bien que d'après Rabbi Meir, on est en général recherche les mitas, mais pas face à un tonneau, il n'y a pas de recherche les mitas, t'as qu'à faire attention. D'après Rabbi Yehuda, on n'est pas recherche les mitas. Mais d'un autre côté, on n'a pas ce système de brûlure, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'appuyer sur le vin qui va rester à la fin du tonneau pour permettre de boire ce tonneau sans faire de prélèvement. On a expliqué en fin de compte que pourquoi est-ce que d'après Abimir, une méchitza animale n'est pas définie comme une méchitza, non pas midérabanane, mais midéoraïta, puisque, ou alors c'est une méchitza qui n'a pas été faite par un homme, ou alors c'est une méchitza qui tient sur du vent et une lame nafkamina entre eux. Quand j'ai fait une méchitza qui tient sur du vent, donc c'est fait par un homme et ça tient pour du vent. Rabbi Yossi Aglili nous dit qu'on ne peut pas écrire un acte de divorce, un guet, sur un animal. Il apprend ça du pasouk, Rabbanan ne sont pas d'accord avec lui. Quelqu'un qui fait une souka et les murs de la souka sont des arbres, ou le branchage des arbres, la souka avec Shira, à condition que le branchage ne bouge pas, et bien qu'il y a, on aurait pu dire, il y a un risque qu'il utilise l'arbre, la souka est quand même Shira, toute méchitza qui peut se déplacer n'est pas une méchitza, il faut faire en sorte qu'elle ne se déplace pas pour être définie comme une méchitza. Le daf est clair, Baruch HaShem, et à demain, Bezrat HaShem.